monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission. Oublié dans les discours officiels, dissimulé par les mouvements de troupes et les rodomontades des chefs de guerre, réduit à quelques statistiques lapidaires et souvent fausses, assénées par les collecteurs de fonds, caricaturé par les chroniqueurs pressés, le peuple congolais est l'un des acteurs les plus négligés de la crise. Cependant, lorsqu'on l'interroge, l'homme de la rue répond « on est là ». Eh bien, nous sommes là aussi avec notre invité pour parler du Congo, pour parler de la façon dont le peuple du Kivu lutte pour vivre dignement. Merci Patient Magenda de nous avoir rejoints pour cette émission.
Merci.
Vous êtes l'un des partenaires invités par Entrée des Fraternités à l'occasion de sa campagne de carême qui est centrée sur le Burundi et le Congo. Vous venez donc du Congo, vous êtes un partenaire de longue date d'Entrée des Fraternités. Vous vous souvenez, quand remonte ce partenariat avec Entraide ?
C'est pratiquement depuis 85-86.
85-86.
Ça fait près de 20 ans déjà.
Ça fait près de 20 ans, mais on va fêter ça. Alors, vous êtes le directeur d'une association qui s'appelle le Comité Anti-Boaki. On va un petit peu dire ce qu'elle fait, ce que cette association fait dans le Kivu. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce Comité Anti-Boaki ?
Eh bien, le Boaki, c'est le kwashiorkor en langue locale. Donc, la malnutrition, la carence en protéines chez les enfants. Mm-hmm. C'est une maladie qui a été diagnostiquée dans la région autour des années 58, donc déjà par la colonie, et qui s'est brusquement amplifiée avec les troubles que nous avons connus après l'indépendance entre 60 et 64. Mm-hmm. Et du coup, les personnalités sont mises ensemble pour voir comment endiguer cette maladie. Boaki, en réalité, signifie kwashiorkor dans la langue locale.
C'est ça. Et donc, dans le Kivu, on compte 3,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. À quoi c'est dû, ça ?
Bon, cela est dû à plusieurs facteurs. Le plus récent, ce sont les guerres. Mm-hmm. Il faut le dire comme ça, parce que les gens ont été chassés de leurs champs, de leur village, les gens sont empêchés de cultiver, mm-hmm. les zones de production agricole ne sont pas toujours accessibles, et donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est un facteur tout à fait, que je dirais, humain, c'est que les pratiques agricoles demeurent quand même d'une certaine manière assez peu performantes. Le troisième facteur, c'est que nous sommes une zone de collines, une zone de relief assez accidenté où les pratiques agricoles n'ont pas beaucoup évolué, comme je l'ai dit, et donc du coup, la production vivrière baisse chaque année. Un autre facteur, c'est qu'en même temps, on est une zone de production vivrière qui baisse, on est également une zone de forte densité démographique. Mm-hmm. Nous avons des taux d'accroissement démographique qui atteignent les 4% l'année. Et donc, l'écart entre la nourriture disponible et les bouches qui la réclament devient de plus en plus grand. Mmh. Un autre facteur important, il faut qu'on le souligne au-delà des guerres, ce sont toutes ces aides humanitaires qui ont été pratiquement élevées au rang des cultes, parce que finalement, quand on voit des tonnes et des tonnes de vivres qui entrent dans la région pendant près de 15 ans, plus de 15 ans aujourd'hui, on s'imagine que les gens, d'une certaine manière, préfère aujourd'hui aller recevoir la nourriture que de devoir la cultiver. Et donc, c'est un contexte où finalement, des gens sont en train d'être rendus paresseux. Je l'ai dit comme ça parce que je vis cela tous les jours.
Et on parle de guerre et de difficultés de cultiver pendant la guerre. Expliquez-nous concrètement ce que ça représente pour les femmes notamment, puisque ce sont surtout les femmes qui cultivent, de continuer à cultiver leurs champs alors que l'insécurité règne. Elles font ça dans quelles conditions ?
Les gens continuent de cultiver parce qu'ils doivent vivre.
Oui.
Parce que finalement, qu'est-ce qui leur reste comme alternative pour la survie ? C'est tenir à son terroir, à sa terre. Et donc les gens cultivent, malgré l'insécurité, malgré les guerres, parce que finalement, la seule ressource dont dispose le paysan, c'est sa terre, c'est son champ, sa roue. Et donc il faut absolument continuer à cultiver pour vivre, produire pour la famille, pour les enfants. Alors, quand ça tire, évidemment, les gens fuient. Malheureusement, dans beaucoup de zones, ça tire presque tous les jours. Quand il y a un calme relatif qui revient, les femmes vont au champ. Et donc, c'est du courage énorme, c'est la volonté de continuer à vivre, c'est la volonté de continuer à se nourrir qui fait que les gens, malgré la guerre, la sécurité, doivent travailler la terre.
Quand je disais cette phrase de Colette Braeckmann dans Le Soir, la citation que j'ai donnée au début de l'émission, quand elle disait que le peuple congolais est le héros oublié de la crise, vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. D'abord, héros parce que c'est un peuple, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui ne se laisse pas faire, qui travaille, qui a une grande volonté de tenir, de travailler, de se développer. et donc un enthousiasme fort de travailler, de vivre, de tenir. Donc c'est pour moi une population héroïne. Oublié parce qu'on ne peut pas imaginer que ce qui se passe au Congo, c'est des statistiques, hein, je ne sais pas moi qui les donne, on parle de plus de 6 millions de morts en moins de 15 ans. Que cela ne meuve pas, outre mesure, les opinions qui se contentent de déclarations, d'accords, hein, qui se répètent les uns aux autres, sans action concrète, qu'on continue à croire que ce peuple, ce qui est nécessaire pour lui, ce sont les aides d'urgence, alors que le peuple réclame la paix, hein, la sécurité. Donc, quelque part, c'est un peuple qui est oublié.
C'est un peuple qui se bat pour la démocratie aussi, envers et contre tout.
Depuis longtemps, depuis déjà Soumobutu, c'est un peuple qui veut la paix, qui veut la démocratie, qui veut être un pays normal, un peuple normal. Un peuple qui ne veut pas continuer à être atypique. Et donc, on se bat. On a cru que Mobutu parti, on aurait la paix, on aurait la démocratie. Eh bien, on a eu malheureusement des successions de guerres qui ne finissent pas jusqu'à aujourd'hui.
Et l'espoir reste malgré tout ?
Absolument, l'espoir reste, parce que comme j'ai dit, c'est un peuple qui ne veut pas disparaître, qui ne veut pas mourir, qui veut tenir, qui veut continuer à lutter. L'espoir est là parce que c'est des résistances évidentes, hein, que le peuple manifeste tous les jours, mais c'est aussi des victoires de tous les jours qu'on engrange, qui font que l'espoir est là, il est là.
Voilà, et bien on est très heureux d'être là pour faire écho à ces petites victoires quotidiennes qui sont si importantes. On va écouter la première chanson de l'émission. J'ai choisi Lokwa Kanza, qui est de Kigali, je pense, avec Plus Vivant.
Je crois qu'il est du Congo.
J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose, comme on a tant vécu. J'ai connu des doutes, tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour comme on n'a jamais vu. Tant que l'eau coule dans nos veines, c'est ma flamme et je prie pour que jamais elle ne s'éteigne. Douceur de la nuit, le bruit et les larmes, la chaleur de la pluie. Si là-bas le temps a vaincu nos envies, alors je me sens encore plus près d'ici. Plus vivant que l'amour qui se donne, que l'on sent dans tout ce qui résonne. Plus vivant que l'oiseau qui s'envole, qui laisse en passant la trace du vent. Elle aime beau, y'a mon pépé,
y'a mon pépé,
plus vivant.
Elle aime beau
que l'amour qui se donne,
y'a mon pépé,
plus bébé. Plus vivant que l'oiseau qui s'envole, plus vivant que l'amour qui se donne.
Oh, elle est beau.
Plus vivant,
y'a mon pépé,
plus vivant.
Voilà, c'était le Kwakanza avec Plus Vivant, et on va rendre au Congo ce qui appartient au Congo. Le Kwakanza est de Bukavu et non de Kigali, comme je l'ai dit par erreur. Voilà, nous revenons avec notre invité, Patient Bagenda, qui est directeur du comité anti-Boaki. Je rappelle, c'est un partenaire de longue date d'entraide et fraternité. Il est en Belgique à l'occasion de la campagne 2013, et on va lui demander de nous expliquer un petit peu ce que fait cette association qui, au fil des années, a pris de l'ampleur.
Oui, le comité anti-Boaki existe depuis 1965, donc ça fait 47 ans aujourd'hui. Ce que nous faisons, d'abord c'est toute une histoire, donc en 47 ans on a le temps de rectifier, de corriger, de planifier, d'échanger, de réorienter. Donc ce qu'on fait au cours de 10-15 dernières années, c'est des activités de développement durable. Donc nous sommes une ONG de développement rural à 100%. Nous sommes dans la sécurité alimentaire et production agro-pastorale comme notre activité principale. Donc l'accompagnement des paysans, justement, je parlais tout à l'heure des problèmes liés à la famine. La question des terres, elles sont réduites mais en même temps délavées par les érosions. Baisse de production, le manque de nourriture dans les familles. Donc ce que nous faisons, c'est accompagner le paysan à adopter des techniques durables de production.
Et comment est-ce que vous procédez concrètement pour...
On a des programmes de formation des ménages autour de techniques de protection des sols, de fertilisation organique, autour de techniques liées à l'intégration agriculture-élevage. Donc nous faisons un appui en intrant de base, les semences, les outils. Et en même temps, nous accompagnons les paysans dans toute la chaîne, production, transformation, écoulement.
Et donc ce sont des formateurs qui se déplacent dans les villages ?
Ce sont des formateurs qui sont installés dans les villages, des vulgarisateurs agricoles, qui sont disséminés dans différents villages pour être aux côtés des populations, des familles, tous les jours dans les champs. On fait des démonstrations, on fait des formations sur l'État. Mais en même temps, des séminaires tous les jours, l'organisation des paysans en coopérative, en unité de production, en unité de commercialisation. C'est un peu ce qu'on fait au niveau agricole, mais en même temps aussi en lien avec tout ce qui est, au fond, c'est la logique de la lutte également, en lien donc avec tout ce qui est gestion des semences, tout ce qui est... résistance par rapport à l'attrait vers les engrais chimiques, mais en même temps tout ce qui est défense des intérêts du producteur par rapport aux services pouvoir étatiques, mais également par rapport à ces acteurs étrangers qui viennent déstabiliser le marché et la production locale.
Oui, donc vous essayez vraiment de couvrir tout le processus de production.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des problèmes d'eau aussi dans cette région-là?
Alors, le deuxième domaine d'action chez nous, c'est justement les infrastructures rurales. Nous sommes principalement depuis 80 dans les domaines de l'eau potable. Vous savez, le gouvernement ne donne pas de l'eau à la population, en tout cas pas rurale. On a une société d'État, c'est la Régie des eaux, qui n'alimente que les villes. Alors, dans les milieux ruraux, il n'y a pas d'eau potable. Et donc, on a eu déjà en 79-80 deux grandes épidémies, le choléra et la dysenterie bacillaire, qui nous ont amenés à nous impliquer dans le secteur de l'eau. Et donc, on fait des aménagements de sources, mais en même temps, on réalise des grandes adductions gravitaires sur 10, 20, 30, 40 kilomètres, avec implantation de bonnes fontaines publiques à travers les villages.
Parce que de l'eau, il y en a au Congo.
De l'eau, il y en a, mais il faut la faire arriver au niveau de la famille. Parce que, bon, comme j'ai dit, chez nous, c'est une zone à relief accidenté. Il faut aller chercher de l'eau à des kilomètres et parfois sur des pentes raides. Donc, notre programme permet de rapprocher l'eau, mais en même temps de lutter contre les maladies hydriques.
Voilà, comme ça les femmes et les enfants ne doivent plus faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et ça permet d'irriguer les champs aussi, j'imagine.
Ça permet en même temps d'irriguer les champs. Ça, c'est notre système parce que l'irrigation, c'est en lien avec le programme agricole. On est essentiellement dans les bassins, dans les bas-fonds et les marais, où nous avons tout un programme d'irrigation, de culture irriguée du riz.
Et la façon dont toutes ces adductions d'eau ont été construites, ça c'est extraordinaire, ça s'est fait vraiment avec les populations.
C'est avec les populations, c'est avec les bénéficiaires au niveau d'un village. Évidemment, on a une équipe de base, une équipe d'une dizaine de personnes formées, ingénieurs, maçons, coffreurs, plombiers et tout. Mais quand on arrive dans un village, la population est mobilisée pour participer aux travaux.
Tout le monde au travail.
Tout le monde au travail, depuis le captage de la source jusqu'à la pose de la dernière bonne fontaine.
Et comme ça, chacun se l'approprie, chacun s'en sent responsable aussi par la suite.
Alors, dès qu'on a réalisé l'ouvrage, l'eau et la propriété est sous la gestion de la population. Chacun a un rôle à jouer. Il y a des comités de maintenance, des comités de gestion composés par les utilisateurs, donc les ménages, qui gèrent les ouvrages et qui les entretiennent, bien entendu. Alors dans ce secteur, il n'y a pas que l'eau, hein. On est dans les infrastructures, comme j'ai dit, on est aussi dans les routes.
Ah oui, pour transporter les récoltes.
Les récoltes, ouais. Routes locales, on est dans l'habitat, amélioration de l'habitat. On est
donc en train vous construisez des routes
On réhabilite les routes locales.
Ah oui.
Alors pour ce qui est de l'habitat, nous avons un fonds de crédit nature, donc un système de crédit en tôle, que les paysans se passent d'une famille à une autre avec remboursement pour améliorer le type de maison que nous avons.
Ah oui. Et au niveau de l'agriculture, vous avez aussi des façons de promouvoir les produits locaux, de rassembler les gens autour, de rendre les gens fiers d'être agriculteurs finalement.
Ah, bien sûr, bien sûr. Au fond, comme j'ai dit, hein, quel est le capital qui est chez le paysan, c'est la terre. Et quelle est l'activité qui lui permet de tenir, aussi bien de manger, mais d'avoir un peu de l'argent, c'est l'agriculture, évidemment, en lien avec l'élevage.
Mm-hmm.
Et donc, avec les formations que nous faisons, avec ces stratégies de proximité avec les paysans, il se développe, bien entendu, une grande fierté des gens qui veulent, qui ont compris que l'agriculture, hein, il faut aller au-delà de la subsistance pour justement faire de l'agriculture une activité rentable qui permet à la famille d'aller au marché, et donc de vendre et d'avoir un revenu monétaire.
Est-ce que le Congo est concerné par ces grandes entreprises agro-industrielles qui rachètent des terres pour cultiver du soja, des produits d'exportation?
C'est un phénomène mondial, le Congo en particulier. Les guerres du Congo, c'est avant tout des guerres économiques, c'est des guerres d'exploitation.
On parle beaucoup du sous-sol minier, mais les terres sont aussi sollicitées.
On oublie les terres, malheureusement, alors qu'actuellement nous sommes envahis par des dizaines de multinationales qui viennent chercher des terres au Congo. Beaucoup de provinces aujourd'hui, on a parlé du Katanga qui, près de 80%, est déjà constitué en concession minière. Mm-hmm. Mais il faut parler aussi des provinces comme le Kivu, comme le Bandundu, comme l'Équateur. L'ensemble du pays qui est en train d'être charcuté par des gens qui viennent demander des millions d'hectares où ils vont développer justement des projets de maïs, d'huile de palme, des jatropha pour le biocarburant.
Mm-hmm.
Donc c'est un phénomène qui est déjà là et nous craignons pour l'avenir des générations.
Mm-hmm. Voilà, c'est déjà l'heure de la deuxième pause musicale. On va écouter Soprano, c'est une chanson qu'on propose aux jeunes notamment d'écouter durant cette campagne. Ça s'appelle Ferme les yeux et imagine-toi.
Imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont un treillis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent. Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mise sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui tue le coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme Mama Galédou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant, et avant d'hésiter la vie, réfléchis dorénavant.
Imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud et lourd, cette étendue désertique, ce maigre troupeau de chèvres et ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. Ces 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leur kalachnikov qui tirent sans réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes 8 ans et tes pieds sans chaussures. Imagine tes mains dans les détritus pour un bout de pain, mec, tu t'y habitues. Imagine Paris et son périphérique, quelque part sous un pont, pas loin du trafic. Imagine-toi sous un duvet sale, luttant contre le froid, luttant contre la dalle. Maintenant imagine-toi dans ta voiture bloquée dans les embouteillages. L'homme sent lentement de sa couverture, l'homme a ton visage.
Voilà, Soprano et Ferme les yeux et imagine-toi, une chanson qui aide les jeunes d'ici à s'imaginer la vie ailleurs avec moins de facilité que ce qu'ils ont ici. Nous revenons avec Patient Bagenda sur le comité anti-Bouaki qui est l'un des partenaires d'Entraide et Fraternité. Alors le comité anti-Bouaki, bon, on a un peu expliqué ce qu'il faisait, mais on n'a pas dit combien de personnes il touchait dans son action.
Alors cette année, bon, déjà depuis quand même 2-3 ans, on a étendu le loin d'action. Nous sommes dans 16 groupements, ça veut dire un territoire couvert par 4 grands territoires autour de Bukavu. C'est autour de 500 000 habitants, 600 000 habitants que nous couvrons.
Qui sont concernés par les actions.
Qui sont concernés par les actions directement.
Eh bien, ça fait un fameux public, ça, c'est un fameux travail. Et alors, vous développez aussi des activités, vous aidez les gens à développer des activités économiques pour s'en sortir.
C'est notre troisième domaine d'intervention, effectivement, la microéconomie au niveau familial, l'appui à des initiatives génératrices de revenus, à des petites unités de production que les ménages mettent en œuvre individuellement ou en petits groupes.
Et justement, Entraide et Fraternité a invité l'un de ses bénéficiaires, l'un de ses micro-entrepreneurs. Il s'appelle Louis et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots.
Oui, Louis Carrébois, on est venu avec lui, donc c'est un des partenaires du comité anti-Bouaki à la base, justement. C'est quelqu'un qui a mis en place une petite unité de production artisanale de vin. Il travaille le vin il fait le vin de canne à sucre, donc il travaille la canne à sucre pour sortir du vin qui est bien apprécié, parfois canne à sucre pure ou un mélange avec la banane.
Mais ce n'était pas son métier à l'origine de fabriquer du vin, sa formation d'origine.
Il a une formation de chimiste qu'il a voulu mettre au service de sa communauté, d'abord lui-même, créer de l'emploi mais en même temps avoir du revenu. Alors il a une petite unité à Mouressa qui lui permet de ramasser la canne à sucre qui est en abondance dans les marais, la valoriser pour produire du vin qu'il met sur le marché. Et donc c'est un exemple de petits micro-entrepreneurs que nous soutenons. Il y en a d'autres, il y en a qui sont dans les savons, d'autres qui sont dans les objets artisanaux, d'autres qui sont dans les jus de fruits.
Ça concerne aussi les femmes, j'imagine.
Les femmes, principalement, elles sont dans les jus de fruits, elles sont dans la teinturerie, elles sont dans la production du savon, elles sont dans plusieurs activités. Et donc, en gros, le programme de micro-réalisation économique, c'est principalement pour les femmes et les jeunes. Les jeunes, parce qu'il faut qu'ils aient de quoi s'occuper, avoir de l'argent au village pour bloquer un peu l'exode rural.
C'est ça, pour empêcher qu'ils rejoignent les villes et les bidonvilles. Voilà, mais là, cette émission déjà se termine tout doucement. Vous avez un site internet que les auditeurs peuvent consulter s'ils souhaitent en savoir plus.
Nous avons un site internet, oui.
Vous connaissez par cœur ?
C'est le www.asbl-cab.org.
Voilà, donc je répète, asbl-cab.org. Et là, vous verrez un éventail de toutes les activités du comité anti-Bouaki. Ça vaut la peine d'aller y faire un petit tour. Quant à nous, si vous souhaitez plus d'informations sur notre campagne, sur les activités, parce que vous pouvez rencontrer Patient Bagenda et Louis dans vos régions ces jours-ci, rendez-vous sur notre site www.entraide.be. Vous pouvez aussi rejoindre notre page Facebook et ainsi être tenu au courant de toutes nos activités. Grand merci Patient Bagenda et bon séjour en Belgique.
Un grand merci.
À très bientôt, au revoir.